Samedi 13 avril, voici Entre nous en rediffusion. Mes invités aujourd'hui, Claudette Dion, Christelle Guibert, Myriam Blair. Bonjour tout le monde, je m'appelle Yves Aude et c'est avec beaucoup de plaisir que je vous présente cette émission hebdomadaire en espérant que vous y prendrez autant de plaisir à l'écouter que j'en ai à vous la présenter. Nous allons passer en effet les 90 prochaines minutes ensemble, mes invités, vous et moi. La dernière partie de cette émission sera consacrée au projet « Une ville, un livre » avec Myriam Blair qui est chargée du projet. Christelle Guibert, ingénieure et horticultrice, nous propose le réaménagement de notre cour en jardin et dans sa chronique à la Nuotte s'intéresse aux mots empruntés à d'autres langues. Cette semaine, il s'agit de podium. Dans ma chronique sur l'actualité, sera question de la crise appréhendée chez les agriculteurs. En ouverture, Claudette Dion, en tournée de promotion pour son spectacle « Il était une voix ». Piaf. Bonne émission tout le monde. Claudette Dion, bonjour.
Bonjour.
Claudette Dion, vous êtes dans le paysage médiatique depuis une bonne quarantaine d'années. Je vous avais reçu déjà pour un spectacle que vous prépariez, Frères et Sœurs, pour le casino, mais vous faisiez une tournée également, je me souviens pas très précisément. Puis il me semble qu'après ça, vous avez été plus discrète. Est-ce que le fait de vous occuper des fondations familiales vous a tenu un peu à l'écart ou un peu plus loin de la chanson?
Ben tout à fait, oui, parce que moi, j'écoute d'abord mon cœur. Puis quand c'est un projet qui me tient à cœur, on a appris très jeune chez nous à chanter en famille. Vous allez comprendre que on était tellement nombreux qu'on était
chorale,
on n'était pas invités nulle part. Donc, on a appris chez nous. Mon père jouait de l'accordéon, ma mère du violon. Alors, mon rêve, c'est de rassembler tout le monde. Et c'est ce que René Angélil m'avait demandé quand on a chanté sur les plaines pour le 400e de Québec. Alors, il y a longtemps que je t'aime, mon Québec. On est allé chercher des auteurs d'ici. Alors, j'ai travaillé beaucoup en famille, évidemment. Et puis, quand quelqu'un me propose un spectacle puis j'ai un coup de cœur, ben très souvent je dis oui.
Vous étiez en février dernier représentante des Boomers dans l'émission Zénith.
Oui.
C'est vous qui aviez choisi la chanson que vous avez interprétée des Cowboys Fringants?
Oui, oui.
Je dois vous dire et vous féliciter. Vous êtes parmi les rares qui restent à chanter pour qu'on comprenne ce que vous chantez. Vous avez une bonne diction, vous parlez bien, on comprend les mots.
C'est gentil.
C'est de plus en plus rare. Ouais. Mais j'ai regretté que vous vous classiez deuxième derrière une chanson en anglais.
Je suis d'accord avec vous.
J'en suis bien sûr. Au cœur de votre interprétation, de votre carrière d'interprète, il y a un nom, bien sûr, qui a toujours... était en vedette, c'est celui d'Édith Piaf. Vous l'avez promené partout, vous l'avez même promené à Paris. Comment les Parisiens recevaient qu'une dame québécoise comme ça vienne leur chanter leur idole?
Ben, à ma grande surprise, c'est une invitation de leur part. C'est eux qui sont venus à Montréal pour savoir ce qui se passait. C'était quoi le succès au casino, l'hommage à Piaf? Parce que moi, je me disais tout le temps, je ne l'imite pas, elle est inimitable. Je voudrais lui rendre hommage, hommage à son œuvre, à la personne qu'elle a été aussi, à sa passion, son audace. Donc, les Français sont venus écouter le spectacle, puis ont dit, madame, c'est un spectacle pour l'Olympia. Alors, j'ai été ravie de cette invitation-là. Je m'attendais pas à ça du tout. J'ai pas planifié dans mon cœur et dans ma tête de devenir une chanteuse parce que chez nous, on chantait toujours, que ce soit à l'église, à l'école, on chantait. Ça nous manquait pas. Et moi, j'avais envie d'être comme ma mère, me marier, avoir des enfants. Je travaillais avec les religieuses dans des crèches où j'avais 32 enfants par jour à m'occuper. J'étais déjà très heureuse. J'étais pas appelée à faire une carrière de chanteuse. C'était pas quelque chose qui m'était passé par l'esprit. Mais le destin fait que un jour, tu fais l'hymne de l'amour à la télé pour faire plaisir et que les gens te réclament. C'est un peu ça, mon histoire.
Êtes-vous la plus âgée, la plus... l'aînée de la famille? La troisième de famille?
Oui.
Précédée par des garçons ou s'il y avait...
Ben, Denise et Clément, sont les... Maman avait déjà un couple. Puis après moi, ben, il y a déjà 11 enfants.
Oui, il y a toute la crèche qui a suivi après ça, effectivement. Ça amorce pour vous une tournée québécoise.
Oui.
Et au cœur de cette tournée québécoise-là, il y a un nom qui est Édith Piaf, ou enfin, ça s'appelle, j'oserais dire, il a une voix plutôt.
Ouais.
Il était une voix, une voix, Piaf.
Oui.
C'est une idée des productions Martin Leclerc?
Oui, il m'a proposé parce que j'étais en tournée avec Richard Abel. Après ça, j'ai embarqué sur la tournée des chansons de Noël, en tradition, en chanson. Donc, un petit retour sur scène avec des complices, avec du bonheur à raconter aux gens. Puis Martin Leclerc me dit pourquoi on remettrait pas Piaf sur scène, Claudette? Ça fait quand on en a parlé, ça faisait 60 ans, on entendait parler un peu à travers le monde qu'on lui a rendu hommage, parce que je pense que ça a été quelqu'un de très marquant dans la vie de bien du monde, bien des décennies. Donc, j'ai dit, mon Dieu, j'aimerais ça. Certains disent, pense-y, on va se faire un projet, puis je vais t'y revenir. Donc, je fouillais dans mes archives que j'avais chez nous, que j'avais ramené d'Europe, des cadeaux de part et d'autre, des gens. Puis, il y avait une feuille qui disait, il était une voix. Oui, sa voix est disparue, mais peut-être qu'elle est restée dans nos têtes et dans nos cœurs et dans nos familles. Alors, il était une voix, être trois sur scène pour lui rendre hommage. C'est un cadeau absolument extraordinaire.
Oui, vous avez mentionné que au moment où vous avez commencé à en parler avec Martin Leclerc, avec le producteur, ça faisait 60 ans. C'est 60 ans de son décès.
Oui, tout à fait.
Cette année, c'était à l'automne 2023, c'était le 60e anniversaire de son décès.
Tout à fait.
Une date marquante, bien sûr, dans l'histoire de la chanson. Avez-vous eu un mot à dire? Vous venez de mentionner qu'il y aurait vous serez trois dans cette aventure-là. Avez-vous eu un mot à dire sur les deux autres ou si
on vous
a imposé les deux autres?
Non, on m'a dit, veux-tu remettre Piaf sur scène? Pense-y, puis on va en reparler. Alors, on a dit, si vous étiez deux ou trois, moi, dans ma tête, ça, je m'étais dit, pourquoi pas trois générations? Parce qu'après 60 ans de décès, des plus jeunes, j'écoutais La Voix Junior, une toute petite fille de 9 ans, 10 ans, qui chantait La Vie en rose. C'était tellement touchant. Donc, ça meurt jamais. Pourquoi pas trois générations qui lui rendent hommage et qui se souviennent de son œuvre, de qui elle était? Donc, ils ont dit, ben, vas-y, on t'écoute. Alors, il fallait dans un premier temps, Rita Tabak, qui a chanté souvent Paris, qui a chanté souvent, puis elle est un peu musicienne, mais surtout professeure de chant. Elle a une oreille absolue, je crois, et elle chante très bien.
C'est la génération des plus jeunes.
Oui, tout à fait.
Elle la connaissait, Piaf?
Oui, elle était, oui, parce que, puis elle chantait Paris, évidemment, puis elle chantait tout. J'avais déjà écouté ce qu'elle avait fait, puis j'ai dit, qu'elle est tellement gracieuse, et elle chante juste, puis on comprend bien ce qu'elle chante aussi, c'est ça qui est le fun aussi. Puis en même temps, il était une voix, j'ai surtout pensé que c'est ta voix intérieure qui doit faire vibrer les gens dans la salle. Peu importe ton timbre, c'est l'émotion qui doit ressortir. Alors, vous allez penser que Nathalie Choquette, une grande interprète comme elle, puis on voulait en même temps pas juste la chanter, l'honorer et la jouer aussi. Parce que de temps en temps, ses drames devenaient presque une pièce de théâtre ou ses chansons un petit peu drôles, ben tout le monde riait. On dit, si on peut la chanter et la jouer, alors ça nous a influencés à choisir Nathalie.
C'est vrai que pour jouer, là, mais il faudra peut-être la contrôler qu'elle fasse pas d'excès, parce qu'elle a une tendance à faire de grands excès, Madame Choquette, dans ses interprétations. Mais comment se marient ces trois voix-là?
C'est formidable. C'est formidable parce que chacune de nous, on reste ancré dans qui on est. Et on la chante à notre façon. Il n'y a pas personne qui va essayer de déformer quoi que ce soit chez l'autre pour lui dire, c'est pas bien joli, tu en fais trop, t'en fais pas assez. Tout le monde y va avec le cœur. Tout le monde y va avec sa propre interprétation. C'est un peu ce que je rêvais de faire aussi, de laisser entendre aux gens jusqu'où Piaf peut être chanté et comment on peut le faire aussi. Alors, il n'y a pas de façon moindre ou plus belle l'une que l'autre. C'est d'offrir son cœur et son émotion, puis de chanter avec ses tripes.
Claudette Dion, parlez-nous un peu du concept de ce spectacle-là. Il était une voix Piaf. C'est construit de quelle façon? Est-ce que c'est construit comme un spectacle de Piaf ou si c'est construit pour en faire couvrir un peu son œuvre ou couvrir sa vie? Êtes-vous chronologique? Vous chantez toutes les trois ensemble? Vous chantez chacune d'une partie? Comment est conçu le spectacle?
Ben, comme elle chantait déjà sa vie, on sait très bien que Mon Dieu, c'est à la mort de Cerdan. Non, je ne regrette rien, c'est parce qu'elle a pris le temps de revenir sur scène après avoir perdu son amoureux. Quand avec Théo Sarrapeau, c'était « À quoi ça sert l'amour ?» Alors, comme elle chantait sa vie, c'était facile par la chanson d'élaborer ça aussi sur scène. Les gens vont comprendre. Que ce soit l'accordéoniste, parce qu'on le sait qu'elle a été élevée avec une mère très absente et très alcoolique. Son papa, qui était déjà dans l'armée, il y avait des allers-retours et il y avait des absences prolongées.
Il était souvent, plus saltimbanque que soldat.
Oui, tout à fait. Ouais. Oui. Donc, elle était souvent toute seule. Elle était mal nourrie. Elle était, on dirait même, crasseuse, pleine de poux. Alors, vous allez comprendre qu'une de ses tantes, qui avait une maison d'accueil pour des jeunes filles, a décidé de la garder avec elle puisqu'elle avait plusieurs chambres. Alors, on comprend très bien la chanson « L'accordéoniste », puis on comprend très bien la foule. Quand on dit que c'est dans la foule qu'elle est bien entourée parce qu'elle a passé sa vie toute seule. Alors, d'interpréter ces chansons-là, c'est comme mettre son œuvre et sa vie parce qu'elle chantait sa vie avec ses tripes. Oui. Alors, c'est facile à comprendre.
Vous avez donc construit le spectacle à partir des chansons.
Oui,
selon les époques oui. des chansons.
Oui.
Que vient faire la narration Il y a une narration qui...
De Charles Dumont.
De Charles Dumont qui accompagne justement ce spectacle-là.
Un cadeau inestimable, mon cher, parce que Monsieur Leclerc, Martin Leclerc, il me dit, si tu vas à Paris, Monsieur Dumont est prêt à te recevoir chez lui. C'est un privilège. Du haut de ses 95 ans, c'est lui qui a écrit « Mon Dieu ». C'est lui qui écrit « Non, je ne regrette rien ». Alors, de rencontrer quelqu'un encore vivant pour nous parler de Piaf, pour encore mieux comprendre, encore mieux saisir son message et son bagage, c'était une chance. Je pense que c'est jamais arrivé, même si on lui rend hommage à travers le monde. Je pense que c'était jamais arrivé. Puis, il a accepté volontiers. Puis après qu'il nous a raconté des bouts de vie avec elle, comment il lui avait offert « Non, je ne regrette rien » pour qu'elle puisse reprendre la scène. Il me dit « Est-ce que vous avez envie de chanter, madame? Venez avec moi. » Il s'est installé au piano. Il a joué « Non, rien de rien ». Je l'ai chanté pour lui. J'oublierai jamais ça de ma vie. Oui, là.
C'est ce qu'il avait fait pour Piaf, d'ailleurs.
Oui, tout à fait. On avait
elle avait dit
de
au
ça.
Départ, ça ne l'intéressait pas, mais quand elle l'a entendu, elle trouvait ça pas pire.
Elle dit « Cette chanson fera le tour du monde, cher monsieur. »
Oui, et voilà, ouais, c'est oui, en train fait. De faire ça. Oui. Donc, il fera une sorte de narration en vidéo, en audio seulement, qui va faire le lien entre les chansons, entre
ben,
les
on voit, on espérait que sa santé lui permette de venir au Québec,
oui.
Mais on n'a pas osé pousser notre chance, hein, vous allez comprendre, à l'âge qu'il là. Donc, on a des belles photos de lui, mais on l'entend comme on l'avait enregistré chez lui dans sa maison, en nous parlant de Piaf, avec sa relation qu'il avait avec elle, avec sa grandeur de son discours, c'est tellement vrai, ça sonne tellement vrai, mais aussi, il présente le spectacle, mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Voici, il était une voix. Allez, chantez. C'est de se faire présenter sur scène par Charles Dumont, je sais pas, là, mais pour moi, en tout cas, c'est un méchant cadeau.
C'est un beau cadeau de la vie, oui.
Ouais, ouais.
Vous serez accompagné, bien sûr, les trois chanteuses, vous serez accompagné de musiciens, ce n'est pas qu'un piano. Qu'est-ce qu'il y a sur scène ou dans... J'imagine qu'ils sont sur scène, les musiciens, avec vous?
Oui, ils sont sur scène. Puis Jean Fernand, qui est au piano, qui a quand même un certain âge.
Jean Fernand Gérard?
Oui. Sans dire son âge, je sais qu'il a connu l'œuvre de Piaf. Juste dans son visage, on voit à quel point il est heureux de jouer ça. Mais l'accordéoniste Serge Arsenault était aussi à l'Olympia de Paris avec moi quand j'avais fait Piaf. Alors, il est honoré. Il sait déjà l'œuvre par cœur, malgré son jeune âge. Le batteur, qui est très jeune, mais quand on donne la rythmique, peu importe la chanson, que ce soit la foule, l'accordéoniste, mon Dieu, peu importe, je pense que la rythmique. Puis notre chef d'orchestre adoré, Jacques Roy, qui joue de la contrebasse et qui joue de la... Il crée l'œuvre de Piaf au son du jour, sans trop défaire l'œuvre, en respectant qu'il y a de l'accordéon, mais il l'a fait à sa façon, c'est magnifique, vraiment, là.
Vraiment, oui, ça donne envie d'y aller, bien sûr.
Oui, certain.
Vous avez fait une sorte de tableau de la vie de Piaf et de ce qu'elle chantait, mais on sait très bien, Claudette Dion, à quel point Piaf a chanté la misère, elle a chanté les amours déçus. Elle a chanté l'idéalisation du beau gars, mais qui va partir, qui va l'abandonner, qui va la laisser là. Ses amours finissent à peu près toujours en tragédie, mais elle remonte très vite, elle en trouve un autre.
Oui, oui.
Le remplacement se fait relativement vite. Mais c'est toute une thématique. En quoi ça vous touche tant, cet univers-là? Et en quoi il est encore... OK, on est fasciné par la voix de Piaf, on est fasciné par ce personnage-là, mais en quoi sa thématique est encore bien présente?
Mais son courage, mon cher, le courage derrière cette petite dame qui avait pratiquement pas d'outils, pas d'école, pas de parents, pas d'image vers l'ascension de quelque chose de meilleur. Alors, elle y allait tout de go. Sa passion qui l'habitait, elle manquait jamais... même si un gars qui ses amis disaient non c'est un bon à rien, et alors on verra bien si un jour il connaît l'amour, peut-être il changera, mais elle avait toujours confiance en l'être humain pour dire ben peut-être que c'est le bien celui-là. Ouais. Tout le monde a connu l'histoire de son Marcel Cerdan.
Oui.
Donc c'est dramatique. Je pense qu'elle avait trouvé l'amour, puis je sais qu'elle a été vraiment critiquée et mais je pense qu'elle avait trouvé l'amour, mais, malheureusement. Ouais,
mais elle savait fort bien qu'avec Cerdan puis avec plusieurs autres aussi, elle ne serait toujours que la seconde, parce qu'il y avait déjà des femmes et des enfants dans la vie.
Oui, Marcel Cerdan avait déjà 4 enfants avec quelqu'un d'autre. Et puis, par contre, avec Théo Sarrapeau, qui était dans la vingtaine, qui était très jeune, avec qui elle a chanté « À quoi ça sert l'amour », puis pas longtemps après, il y a eu un accident mortel. Tout le monde prétend que Théo Sarrapeau se serait suicidé pour aller la retrouver. Pour avoir eu la chance d'aller sur sa tombe dernièrement encore. Elle est avec Louis Gassion, son père, et avec Théo Sarrapeau dans la même tombe. Alors, je pense que même si elle n'était pas consciente, l'amour s'est réuni.
Oui, mais je reviens quand même à ces thématiques et quand je demande au goût du jour... Je me pose toujours la question, si on prend L'hymne à l'amour, qui était une pièce magistrale, mais je me ferais teindre en blonde, je ferais le tour du monde, si tu me le demandais. Il y a un abaissement, là, de la femme qui doit faire rugir les féministes aujourd'hui.
Oui, puis malgré le fait qu'elle-même, elle était très féministe quand elle dit « Je ne veux plus faire la vaisselle », il jaillit les dimanches. Et alors, puis ses amis rient d'elle. Mais je pense que c'est cette audace qu'elle avait et d'y croire. À quel point je t'aime, cette audace-là, puis cette franchise. Je t'aime tellement, je ferais n'importe quoi pour toi.
Oui.
Alors, puis Dieu sait qu'à cette époque-là, la majorité...
Oui, mais en parallèle, ça vaut bien Brel qui dit « Je serai l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien.
On avait des thématiques
semblables dans le temps. Donc, Claudette Dion avec Nathalie Choquette et
Rita Tabac,
vous serez en spectacle à la salle Albert Rousseau dimanche, le 14 avril à 20h.
Oui.
Et vous irez ailleurs, vous ne faites pas tout ça juste
pour
un spectacle?
Oui, on a été en tournée, on a fait 3 spectacles au Casino de Montréal, puis on était à Sainte-Thérèse il n'y a pas très longtemps. Alors, on s'amorce une tournée d'une vingtaine de spectacles à peu près. Alors, je pense que c'est une œuvre qui ne mourra jamais. Et puis de réécouter ce qu'on aime et de réécouter ce qui entre dans ton cœur, l'amour entre autres, et c'est vraiment c'est apaisant, puis c'est le fun.
20 spectacles, ça aurait été beaucoup demandé à Charles Dumont de vous suivre pendant 20 spectacles.
Je suis d'accord avec vous.
Merci Claudette Dion et c'est un rendez-vous dimanche 14 avril, salle Albert Rousseau, 20h.
Avec plaisir.
Moi j'essuie les verres au fond du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Et dans ce décor banal à pleurer, il me semble encore les voir arriver. Ils sont arrivés, se tenant par la main, l'air émerveillé de deux chérubins portant le soleil. Ils ont demandé d'une voix tranquille un toit pour s'aimer au cœur de la ville. Et je me rappelle qu'ils ont regardé d'un air.
Ces mots venus d'ailleurs avec Hélène Huot. Bonjour Hélène Huot.
Bonjour.
Cette semaine, vous allez nous parler d'un terme qu'on associe beaucoup aux Olympiques, au succès des gagnants. Est-ce qu'un podium a toujours eu trois marches?
Non.
Non? Ben alors allez-y pour podium.
Podium, c'est un mot latin et qui est entré en français au 18e siècle. Mais la réalité du podium est bien antérieure. Un podium, c'est une petite plateforme, un plancher surélevé qui permet des manifestations du genre un petit spectacle, une kermesse, un défilé de mode notamment, parce qu'on la voit beaucoup avec nos mannequins sur le podium. Bon, c'est ça. Ça peut servir à diverses fins. Le domaine dans lequel le podium a eu peut-être le plus de popularité, c'est effectivement, comme vous le mentionnez, le domaine sportif. Alors, on a le podium qui est à trois places. La première place flanquée à gauche et à droite de deuxième et troisième place. Puis les personnes qui viennent chercher leur titre ou leur décoration. Leur vie. Bon, puis aussi, on peut utiliser le mot podium au sens figuré, du genre sur le podium, avoir une place sur le podium, ça voudrait dire se distinguer, sinon avoir la première place. Le mot podium a donné lieu, chez certains, à un adjectif qui est podiumable. C'est pas...
On n'entend pas ça souvent.
On n'entend pas ça souvent. C'est un mot qu'on va rencontrer souvent sur le vocabulaire des journalistes sportifs. Puis dans la langue française, des mots de ce genre, ils sont très nombreux. On a quelques centaines de mots en « able ». Alors, « podiumable » voudrait dire qu'il est susceptible de mériter ou d'aller sur le podium. La formation du mot est bonne, même si elle n'est pas encore totalement officielle. Par contre, il y en a des mots qui sont officiels puis qui ont exactement la même raison d'être. On va dire en français de quelqu'un qui est papable.
Parfois, on dit « papabili ». On a gardé une formule peut-être un peu latine ou italienne.
Alors, papable existe vraiment en français, vous le trouvez dans le Robert. Vous allez trouver aussi nobilisable, mais on trouve pas encore oscarisable. Alors, tous ces mots, alors podiumable et d'autres, c'est une question de temps. La voie, j'allais dire, morphologique en français est déjà tracée, puis ils sont nombreux. Alors, on a dit donc, le podium aujourd'hui, c'est une petite estrade. Pour comprendre le sens du podium, il faut retourner à Rome et au temps notamment des Jeux. Bon, chez les Romains, les Jeux, c'est un phénomène quasiment... un trait culturel là, indissociable. Rome ne serait pas Rome sans les Jeux du cirque. On a des jeux nombreux, des jeux qui touchent la boxe, les courses de chars, l'athlétisme et aussi le théâtre. Ces jeux-là se déroulent dans une arène et s'étalent sur une période relativement longue de temps. Enfin, on appelait ça les ludi. Ludi, c'est simplement ludus, le mot latin qui veut dire jeu. Il y avait un calendrier très chargé des jeux. Et quand l'Empire s'est installé, le nombre de jours de l'Oudi est passé de 1 à 3. C'est-à-dire qu'on était rendu quasiment là à quelque chose comme presque 200 jours de jeux dans une année. Bon, on connaît la maxime de Juvénal qui dit « des pains et des jeux ». Juvénal, c'est un poète fin du 1er siècle et début du 2e siècle. Juvénal détestait ce qu'était devenu la Rome impériale qui, disait-il, était une grande arène de bouffons, tellement il y avait des jeux. Alors, finalement...
En fait, l'expression du pain des jeux, c'est une marque de décadence.
Absolument. Puis, sans porter de jugement de valeur sur ce qu'était devenu Rome, on peut dire que ça s'appliquait bien, étant donné l'abondance des jeux, puis étant donné le nombre de jours dans une année. C'était vraiment indissociable de Rome. Les chrétiens, à partir déjà du 2e siècle, ont protesté contre ce que Rome devenait là comme empire, d'une certaine manière, des jeux.
Mais, oui, parce qu'ils en étaient les victimes aussi.
Oui, puis ils ont repris à leur compte la maxime de Juvénal du pain et des jeux, mais ce ne fut pas un grand succès parce que les jeux à la romaine ont perduré finalement jusqu'au 12e siècle. Alors, si on pense qu'il y avait des jeux à ce point, aussi nombreux, aussi extraordinaires, aussi fascinants, ben, il fallait des endroits pour les tenir. Alors, les endroits adéquats, bien adaptés, ce qui explique que les amphithéâtres ou les cirques dans la Rome antique pouvaient prendre autant de place. Dans un amphithéâtre, il y avait au centre, et plus bas d'une certaine manière, l'arène dans laquelle avaient lieu les jeux, les combats. Ça pouvait être des gladiateurs, enfin, la boxe, quoi qu'il en soit. La variété était quand même assez considérable. Les constructions des amphithéâtres sont devenues des constructions absolument monumentales. Je vais juste vous dire que, par exemple, le Colisée à Rome pouvait accueillir 75 000 personnes. C'est assez fascinant. Notre vidéotron à nous, là, notre amphithéâtre, je pense que...
Dans les
20 000. Toutes places confondues, là, les loges et les gradins, les places ordinaires, etc. Alors, finalement... Ça peut nous donner une petite idée de l'ampleur et du côté monumental des...
Et de l'attrait, il fallait qu'il y ait un public pour remplir.
Oui, il y avait du public. Enfin, certains pourraient considérer qu'ils avaient la vie facile. Dans l'amphithéâtre comme tel, on a un mur qui s'élève... toute la partie inférieure, là, si on veut, de l'amphithéâtre, un mur qui s'élève et qui pouvait atteindre jusqu'à... 6 mètres de haut. Pour, comme idée, j'ai encore une fois faire une comparaison avec une architecture moderne. Là, le mur de Trump, lui, est autour de 8 mètres contre le Mexique. Alors, le mur de soubassement dans l'amphithéâtre, 6 mètres de haut, il servait à retenir finalement toute la construction. Ça permettait d'isoler la reine des gradins, parce que les gradins étaient justement au-dessus. Alors, si on prend le mur, puis qu'on monte, juste au-dessus du mur, ça formait une espèce de plateforme, et c'est ça qu'on appelait le podium. C'était ce qui était vraiment sur le dessus, un peu comme dans des loges. Ben, c'était les places d'honneur pour l'empereur, les magistrats, tous ceux qui avaient des fonctions extraordinaires, puis les vestales, les gens d'honneur. Alors, donc, eux, ils prenaient place sur le podium, bien en vue, et pouvaient assister au jeu. D'où cette idée que être sur le podium, c'est quelqu'un qui...
Qui est un peu à la première place.
Qui est à la première place, mais c'est quelqu'un qui a des mérites aussi par rapport aux autres. Alors, notre idée de podium vient justement de là. Il y avait des rangées derrière pour les gradins. Puis, il y avait des escaliers qui permettaient de communiquer aussi d'en bas de l'amphithéâtre jusqu'au dessus, comme il y avait des tunnels en dessous.
Et des couloirs.
Bon, on devine aussi toute l'organisation. Les Romains étaient quand même assez forts en architecture, puis il y avait des couloirs, des tunnels particuliers pour faire circuler les gladiateurs, les bêtes, etc. Cette façon d'organiser les amphithéâtres était un petit peu différent de ce qu'on trouvait chez les Grecs. Enfin, ce qu'on appelle aujourd'hui un podium vient vraiment des Romains à cause justement de la hauteur et du côté honorifique que ça donnait. Voilà.
Merci beaucoup, Hélène Huot. Vous pouvez toujours consulter le site de Radio Galilée. C'est au www.radiogalilée.com. Vous y trouvez des informations sur la programmation, sur le nom des invités que je reçois le mardi. Vous pouvez écouter vos émissions en direct, les réécouter à la carte à l'occasion. C'est un site qui est convivial, qui est très facile à consulter. Je vous le recommande à tous et à toutes. Nous tentons présentement de joindre notre invité, Christelle Guibert, qui devrait être au téléphone ou sur écran, en Zoom. Il y a toutes sortes de façons dont on pourra s'intéresser à son projet. C'est une ingénieure qui nous fait la proposition assez audacieuse de transformer notre cour en jardin. Mais il faut comprendre que pour nous, le jardin, ça a toujours eu une connotation de jardin potager. Dans le cas des Européens, le jardin est peut-être une connotation un peu plus large, celle de ça peut contenir autant des fleurs, un endroit de repos, des accessoires pour attirer les oiseaux ou autres. Pas nécessairement le jardin de patates, de carottes et de choux et de tomates que l'on connaît chez nous. Alors, elle nous propose je veux dire sacrifier, parce que c'est un peu cet élément-là qu'on trouve chez nous, sacrifier notre gazon pour développer davantage ou développer un peu le jardin soit potager, mais aussi le jardin fleuri, qui devrait être plus possible, plus accessible à tout le monde. Et je pense que je peux retrouver Madame Christelle Guibert. Bonjour.
Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez?
Je vous entends très bien. Je ne vous vois malheureusement pas, mais ça devrait venir. Enfin, la technique va s'y mettre. Christelle Guibert, j'étais à présenter un peu votre projet, qui est celui de réaménager notre cour en jardin. Vous êtes d'origine française, vous êtes ingénieur de formation. Est-ce que vos qualifications d'ingénieur, c'est en horticulture?
Non, du tout. C'est vraiment dans le domaine ingénieur en chimie physique. Donc, c'est complètement différent de sur quoi j'ai été formée à la base. Par contre, c'est vraiment, j'ai un historique dans ma famille où les gens sont très proches de la terre. Hein. Mes grands-parents, du côté de mon père et de ma mère, c'était des agriculteurs. Et puis, mes parents et toute ma famille, je les ai toujours connus travailler la terre. Donc, ça a toujours été un intérêt pour moi. Et puis, mon esprit d'ingénieur, en fait, me fait toujours poser des questions de comment est-ce que ça fonctionne, etc., d'aller un peu plus loin dans le fonctionnement de la nature, en gros, et puis comment fonctionne un écosystème. Donc, c'est vraiment la passion qui fait que j'ai écrit ce livre-là pour encourager les gens à se mettre à planter des variétés qui pourraient être utiles à la fois pour la biodiversité, mais aussi pour les humains, la communauté, la famille, puisque le but, c'est de planter des variétés qui vont produire des choses que l'on peut manger, donc l'aménagement comestible.
Donc, cette passion ou cet intérêt que vous avez, vous l'avez amené de France. Ce n'est pas une passion qui s'est développée chez nous, devant nos grands espaces.
C'était une passion un peu refoulée que j'avais pendant toute mon enfance. Et puis quand je suis arrivée au Canada, c'est sûr que les grands espaces, ça donne beaucoup plus de liberté. Les terrains sont généralement plus grands. Là, on a eu l'opportunité d'avoir un terrain qui fait un demi-acre. La nature est beaucoup plus présente, beaucoup plus proche de nous. Donc, ça, c'est sûr que ça m'a ouvert les yeux. Et j'ai aussi, quand je suis arrivée au Canada, je me suis mise à travailler dans le domaine de l'environnement. Donc, c'est aussi pour ça que ça m'a développé un peu mon esprit d'environnementaliste. Donc, ça fait quand même depuis quelques années que je cultive cet esprit-là.
Est-ce que c'est votre observation de nos mœurs, de nos habitudes qui vous a fait porter ce jugement un peu sévère sur le gazon?
Je dirais un petit peu, oui. C'est sûr que c'est le modèle, c'est encore le modèle des banlieues, on va dire, des années 70, où en gros, ben, on va avoir le centre très urbanisé, puis ça va s'étendre tout autour avec les banlieues. Et généralement, on est encore sur l'ancien rêve qui a été développé des États-Unis, hein, d'avoir sa maison, d'avoir son terrain et surtout avoir une super belle herbe, un beau gazon autour du terrain. Mais ça, c'est un peu fini, cette manière de penser, puisque quand on regarde les changements climatiques, c'est de plus en plus difficile d'avoir une belle pelouse. On n'est pas en Angleterre, là, d'où ça vient, le beau gazon, là, ça marche très bien en Angleterre, il pleut tout le temps.
Oui.
Mais ici, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir un gazon qui reste vert, donc les gens vont passer tellement de temps et d'argent à vouloir entretenir quelque chose qui est un peu contre la nature ici, que je trouvais ça important de faire prendre conscience aux gens de la nécessité de changer un peu la manière de voir les choses.
Ouais. J'imagine que vous savez qu'il y a eu des batailles, je dirais pas épiques, mais quand même, il y a eu des batailles entre des citoyens et des municipalités à l'effet que la municipalité interdisait que oui. L'on ait des tomates ou du blé d'Inde dans la partie avant de la résidence. La partie avant, ça devait d'être gazonné.
Ouais, parce que ça fait moche.
Oui, ça fait moche de cultiver. Ce serait quoi, vous l'avez abordé un peu, mais ce serait quoi les grands avantages, justement, de transformer sa cour en jardin?
Il y a plein d'avantages. Hein. La manière dont... OK. J'essaye d'aborder le point de vue de créer un aménagement comestible plutôt qu'un potager classique où on va replanter chaque année. Donc, le but, c'est d'avoir un aménagement qui est esthétique en implantant des fruitiers, mais aussi des herbes médicinales, aromatiques, qui, elles, vont fleurir. Donc, c'est très, très joli tout au long de l'année. Ça va aider beaucoup les pollinisateurs aussi, donc au niveau de la biodiversité et puis d'aider la nature. On sait que les insectes, il y a une grosse diminution de la quantité des insectes. Ils sont très utiles pour polliniser nos fruits et nos légumes. Donc, ça va aider. Ça va aider aussi la communauté puisque déjà l'apprentissage de comment est-ce qu'on fait, les voisins vont voir ce qu'on fait, ils vont vouloir le faire, c'est ce qui se passe chez nous là. Quand on a commencé à faire ça il y a quelques années, nos voisins ont emboîté le pas. Donc maintenant ils sont tous en train de mettre des fruitiers chez eux, etc. Il y a toute la partie éducation des enfants aussi parce que c'est il faut un peu les remettre. Les reconscientiser de comment fonctionne la nature. Ils ont été le lien a été un peu brisé. Donc, c'est des bons projets pour que les enfants se remettent à comprendre comment fonctionne la nature. Au niveau du budget aussi. Donc, si on produit des fruits et des légumes chez nous, mais c'est sûr que ça fait une petite autonomie alimentaire. Donc, ça permet de réduire aussi le budget à l'épicerie. Et surtout pour les fruits. Au Québec, on est un peu pauvre en type de fruits qu'on peut avoir à l'épicerie qui sont locaux. Donc, à part les pommes, les fraises et les framboises, c'est assez rare d'avoir d'autres fruits. Donc, on peut en planter en choisissant des variétés rustiques. On peut planter vraiment des fruits qu'on va produire nous-mêmes et qu'on peut conserver pour l'hiver. Donc, ça aussi, c'est une grosse économie. Puis, ça va avoir un meilleur goût qu'une prune qu'on a achetée qui vient du sud, qui n'a pas été mûrie sur l'arbre pour pouvoir résister pendant le transport. Donc ça fait une grosse différence aussi.
C'est intéressant de vous entendre développer ce projet-là, mais d'une certaine façon, vous allez à l'encontre d'un mouvement de réappropriation, disons, des centres-villes pour éviter l'étalement urbain.
Non.
Dans les municipalités, on bâtit en hauteur et on hérite d'un balcon. Quand on a la chance d'avoir un balcon, pour justement éviter l'étalement urbain. Ce que vous proposez, c'est pas de continuer l'étalement.
Non, c'est d'optimiser les surfaces qu'on a déjà. Donc, en gros, il y aura toujours des maisons en banlieue, puis au lieu d'avoir du gazon, on peut se mettre à planter des choses qui vont être utiles. Donc, des choses qui peuvent se manger. Donc ça, c'est vraiment pour les banlieues. Oui, il y a vraiment cet objectif des municipalités de densifier les centres urbains. Puis je comprends, là, c'est beaucoup plus facile pour les transports en commun, etc. Mais il faut éviter de faire la rupture de ce contact avec la nature. Donc moi, je sais que j'ai vécu en ville, je suis incapable de retourner vivre en ville. Comme il y a des gens, ils n'arriveront jamais à vivre en ville. Donc ils ont besoin d'avoir plus de terrain pour se sentir bien. Puis pour ceux qui sont en ville, mais qui veulent quand même apprécier la nature, puis participer à ce genre de projet, il y a de plus en plus de projets communautaires qui voient le jour, où justement, ben, ils vont faire des forêts nourricières. Il y en a quelques-unes au Québec, là. Ça vient aussi beaucoup des États-Unis, puis Colombie-Britannique, mais ça commence à venir dans la région, où là, en gros, ben, c'est les gens qui développent une forêt nourricière, donc avec des arbres fruitiers, avec d'autres plantes comestibles, et puis c'est à disposition de tous les passants. Donc ça, c'est vraiment des projets qui sont intéressants. Donc il va y avoir généralement une association qui va gérer la forêt nourricière, puisqu'il y a quand même quelques petits entretiens à faire. Et puis, c'est vraiment à disposition de tous les gens qui passent. Et c'est gagnant-gagnant. Là. C'est vraiment quelque chose qui permet de mettre à profit, on va dire, les terrains vagues ou les choses comme ça qu'on peut retrouver en ville quand même et qu'on peut optimiser d'une meilleure manière.
Oui, mais c'est un bel idéal que vous proposez là. Il faut faire énormément confiance aux gens parce que, personnellement, j'ai connu dans des jardins communautaires des gens qui venaient voler les tomates. Alors, oui. Là, si on a des arbres fruitiers, c'est vrai que vous dites c'est au profit de tout le monde, mais il va probablement y avoir des prédateurs qui vont vouloir tout prendre.
Ça fait partie du jeu, c'est sûr. Mais c'est un peu différent des jardins communautaires de potager où chacun va avoir son petit terrain et va faire sa production. Là, c'est vraiment, on plante et puis les arbres, ça produit sur des décennies. Hein. Donc, une fois que les arbres produisent, généralement, ça suffit largement pour plusieurs familles. Donc, imaginons, il y a quelqu'un qui passe et qui veut tout ramasser, ben, ça serait difficile de tout ramasser et que rien ne se perde après, tellement c'est des grosses quantités au niveau des arbres. Donc, c'est quelque chose qui est un peu plus faisable au niveau des fruitiers.
Dans votre ouvrage, Christelle Guibert, dans votre ouvrage de la cour au jardin, vous vous proposez un aménagement 2.0. Expliquez-nous un peu, oui. Vous en avez parlé déjà, là, mais c'est quoi l'aménagement 2.0? Habituellement, 1.0, c'est la base. Là. 2.0, on est déjà dans un domaine un peu plus avancé.
Oui, ben c'est essayer d'implanter des principes qui vont permettre de réduire la quantité d'entretien pour que ça soit vraiment le plus facile et le plus durable possible, dans le sens qu'on n'a quasiment rien besoin de faire pour que ça s'auto-entretient. Donc, c'est sûr, je vais amener quelques principes de permaculture pour que les plantes aillent bien ensemble et qu'elles apportent des bénéfices aux plantes qui sont à proximité. On parle souvent du compagnonnage au niveau du potager, hein, mais là, c'est un peu l'équivalent, mais plus au niveau de plantes qui sont vivaces et qui sont des arbres ou des arbustes. Donc, c'est vraiment ça, c'est trouver toutes les petits trucs et astuces qui permettent de concevoir correctement, enfin, concevoir une base d'un plan d'aménagement comestible qui va durer pendant des années et qui nécessitera très peu d'entretien. Donc, en gros, au printemps, à la récolte et puis un tout petit peu à l'automne, mais c'est tout. C'est ça le but de l'aménagement 2.0.
Oui, mais il faudra prendre peut-être 3 ou 4 ans pour arriver à ça, au moins.
Alors... Oui, donc c'est ça. Les arbres, c'est eux qui vont mettre le plus de temps à produire. Mais généralement, ce qu'on peut faire, c'est que ben, la première année, pour ne pas se sentir frustré de n'avoir aucune production, on peut planter des annuels comme des tomates hein, ou des concombres ou des courgettes dans les trous le temps que les plus grosses plantes commencent à pousser. Et puis dès 2 ans, on va avoir des, par exemple les framboises, les fraises, etc. Ça arrive dès les deux premières années. On va avoir les arbustes aussi, tous les petits fruits, hein, les camerises, les groseilles, les cassis. Ça, au bout de 3 ans, il y en aura déjà. Donc on peut quand même avoir des productions rapidement. C'est sûr que la première année, si on prévoit rien que de planter des arbres et des arbustes, on n'aura rien. Donc, ça peut être un peu frustrant. Donc, il faut juste combler les trous.
Oui, mais là, il faut dire, c'est encore une fois, j'admire l'idéalisme de votre proposition, mais il faut dire que vous habitez dans le sud de la province. Ce que vous pouvez faire dans la région de Gatineau.
Oui, oui, mais j'habite pas dans la zone 5. J'habite dans une zone plus au nord, donc c'est zone 4. Donc, ça correspondrait un peu à ce qu'il y a à Québec. Donc, il y a quand même beaucoup de choix au niveau des fruitiers nordiques. Zone 3, c'est correct aussi. Zone 2, ça devient beaucoup plus compliqué, là.
Oui, en effet. Vous proposez, une des premières remarques que vous faites, parce qu'il y a beaucoup de propositions qui émanent de votre ouvrage, une des premières que vous faites, c'est d'observer son terrain, si on vient d'en devenir possesseur, si on vient de l'acheter, ou si on n'y avait pas pensé avant, mais de l'observer pendant au moins une année, observer les quatre saisons. Qu'est-ce qu'on doit observer sur l'été, l'automne, l'hiver, le printemps sur notre terrain?
Ben déjà, le plus simple, c'est l'ensoleillement. Généralement, quand on commence au printemps, on a l'impression qu'il y a du soleil partout sur le terrain parce que les arbres n'ont pas encore poussé leurs feuilles. dès qu'on se rend compte qu'on a des arbres comme des érables ou les conifères, c'est plus simple parce qu'ils gardent tout le temps leurs feuilles. Donc ça, on le sait que ça va faire de l'ombre en continu. Mais il faut vraiment observer sur quel coin ça va être le plus ensoleillé au niveau de notre terrain, parce que c'est là qu'il va falloir privilégier le potager ou certains fruitiers qu'on veut absolument, parce que généralement, les fruitiers ont besoin de plein soleil. Donc, c'est au moins 8 heures de soleil par jour. Ça, c'est une des premières choses. La deuxième chose, c'est quel type de sol qu'on a et est-ce qu'il y a des zones sur notre terrain où le sol est différent. Donc là, on va gratter, on va creuser, on va regarder un peu qu'est-ce qu'il y a comme sol. Est-ce que c'est très sableux ou est-ce que c'est très argileux, etc. Ça prend du temps aussi. Au printemps et à l'automne, quand il y a des grosses pluies, bon, il y en a de moins en moins, mais quand il y en a, c'est ça.
Elles sont plus sévères.
Oui, elles sont plus sévères. Donc là, on peut voir s'il y a des zones où l'eau stagne. Donc ça va nous dire que ça va être beaucoup plus risqué de planter des arbres à cet endroit-là puisque les racines seront trop submergés pendant trop longtemps. Donc, il faut éviter ces zones-là ou alors il va falloir faire de la culture sur butte, donc rajouter de la terre pour éviter que les racines soient dans l'eau. Regarder s'il y a du vent aussi, dépendamment des saisons. Des fois, il y a un très fort vent l'hiver. Donc, ça peut assécher aussi les bourgeons des arbres. Donc, c'est plein de petits paramètres comme ça à regarder que j'explique dans le livre.
Pour les sols, j'ai l'impression qu'on a besoin d'aide, qu'on a besoin de soit d'un agronome ou soit d'un horticulteur qui puisse venir nous préciser. Pour l'humble citoyen peu connaissant, c'est difficile de déterminer la qualité de son sol et quelles plantes iraient le mieux dans le sol en question. Moi, j'avais toujours entendu parler que c'était un bon camion de terre noire, mais c'est peut-être pas nécessairement l'idéal.
Non, c'est pas forcément l'idéal. Ce que je recommande, c'est vraiment de tester le sol. C'est sûr que si on veut pas le faire nous-mêmes, on prend des échantillons, puis on l'envoie à un centre jardin. Et eux, ils vont nous dire exactement c'est quoi dans notre sol, c'est quoi le pH, les nutriments, etc. Est-ce qu'il nous manque des choses? Et puis, chez moi, j'ai vraiment un sol très pauvre. j'ai fait les tests et c'était tout très faible. Tous les nutriments étaient très faibles. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé? Je me suis dit, OK. Si je veux planter des choses qui nécessitent beaucoup d'amendements, donc qui doivent être fertilisées souvent, je vais juste passer mon temps à nourrir les plantes pour qu'elles me donnent quelque chose. Donc je me suis dit, je vais orienter mon choix de plantes en fonction de ce que j'aime bien sûr, mais aussi en fonction de comment est-ce qu'elles vont survivre dans mon sol très pauvre. Et puis je vais parler juste des fleurs là, mais la lavande, ça c'est une des plantes que le sol sec, le sol sablonneux, c'est ce qu'elle aime. Donc, c'est vraiment ce genre de choses-là qu'il faut regarder. C'est une fois qu'on a déterminé un petit peu comment est notre sol, la texture, c'est assez simple hein, de faire soi-même. Je donne des tests qu'on peut faire, qui sont assez connus. On va déterminer quelles plantes vont dans ce type de sol-là. Puis ça va nous permettre de faire des choix éclairés qui nous permettront de réduire notre entretien après.
Mais vous n'aviez
pas... il y a peut-être certaines variétés qu'on ne pourra pas du tout planter parce qu'elles ne sont pas du tout adaptées chez nous.
Mais vous n'aviez pas moyen d'améliorer ce sol-là?
Mais je n'ai pas envie d'améliorer un demi-acre. Oui, ça serait trop.
c'est beaucoup, en effet. Il faut se défaire aussi, dans cette année d'observation-là, il faut voir ce qui serait inutile et s'en défaire. Il y a toutes sortes d'éléments qui peuvent être inutiles, une vieille clôture, une cabane délabrée, un bout asphalté. Enfin, il faut observer ça et s'organiser pour s'en défaire.
Oui, ça fait partie des choses à observer. Je ne dis pas forcément de s'en défaire, mais faire le choix en famille de est-ce qu'on veut garder cet objet-là, par exemple, ou si on veut le retirer. Puis, bien réfléchir à est-ce que ça... ça a un avantage de le garder. Est-ce que ça peut aider les plantes? Parce qu'une vieille clôture, on peut la garder, la recouvrir avec des grimpantes, mais on peut mettre de la vigne dessus. Elle sera belle, la clôture, après. Ou elle va servir aussi à protéger les plantes du vent. Donc, faut quand même attendre avant de retirer et réfléchir vraiment, OK, est-ce que ça, j'en ai besoin ou non, pas de rapport, là, comme une statue qui n'est pas du tout de notre goût, qui se retrouve devant la maison et que c'est en plein soleil et nous, on voudrait mettre notre potager là, mais ça ne fait pas de sens de la garder. C'est comme,
ouais. On peut la retirer. Il se trouve peu de statues sur les terrains privés maintenant.
non, c'est de plus en plus rare.
Chez nous, en tout cas. Mais Vous mentionniez la pauvreté de votre terre et qui vous obligeait à choisir des plantes en fonction de cette pauvreté-là. Donc, on ne choisit pas nécessairement les plantes qu'on voudrait. Il faut tenir compte de ce que le sol est capable de prendre.
Il faut tenir compte de ce que le sol peut prendre, mais il faut aussi tenir compte qu'il y a énormément de plantes qui s'adaptent à beaucoup de types de sols. Donc, au niveau des fruitiers, comme que ce soit un peu acide, un petit peu alcalin, un petit peu pauvre, etc. Du moment qu'on leur rajoute, par exemple, du paillis chaque année, un peu de compost et du paillis, les plantes, elles vont mettre plus de temps à pousser, mais elles vont quand même pousser. Donc, c'est faisable. Comme les plantes sont très tolérantes du sol.
Parlons de ce que le potager pourrait apporter à d'autres espèces, disons, les oiseaux et les insectes. On en a besoin, les oiseaux peuvent venir aussi, ça peut servir. Et vous parlez d'une certaine cohabitation, qu'il y a des plantes qu'on pourrait favoriser parce qu'elles vont attirer tel type d'oiseau ou tel type de... et ceux qu'on ne veut pas. Mais vous trouvez pas que parfois on est infesté d'insectes dévastateurs et on n'a pas le prédateur pour...
Ouais, mais ça, c'est encore les changements climatiques. Les insectes migrent vers le nord. Oui. Ils peuvent se le permettre. On voit quand même que certains insectes ici et certains oiseaux prédateurs commencent à s'adapter. Souvent, ce qu'on va retenir, c'est le fameux scarabée japonais, hein, qui commence à aller dans toutes les cours. Je sais qu'il y a certaines régions qui sont pas touchées encore, mais ça va venir. Ouais. Ben, eux, c'est sûr que qu'est-ce qu'ils se nourrissent? De l'herbe. Donc, plus on a du gazon chez soi, plus les scarabées japonais vont venir pour pondre et après mettre leur ver blanc dans le gazon. Donc ça, les premières années, on était infestés, on devait mettre des hormones pour les attirer, les jeter, etc. Puis quand on a retiré au maximum le gazon, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup moins de ver blanc, donc beaucoup moins de scarabées après. Et puis les oiseaux, ils ont aussi évolué, ils ont commencé à les manger. Ils ne les mangeaient pas du tout les dernières années. Donc là, ils ont commencé à les manger. Il y a aussi un parasite maintenant qui pond sur les scarabées japonais. C'est une espèce de petite guêpe qui va pondre sur le scarabée puis qui va le manger de l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment... il y a une adaptation qui se fait, hein, au fil des années. Et plus on va avoir de variété, plus on va avoir de diversité en plantes sur notre terrain et plus on va attirer les prédateurs également. Donc les pestes, hein, le problème, c'est quand il y a de la monoculture. Donc, quand on a la même chose sur une grande surface, ben, c'est sûr que les pestes vont arriver en grand nombre. Et puis là, ça va être très difficile de gérer ça de manière écologique. Généralement, il va falloir traiter. Donc, c'est pour ça que plus on va avoir des différentes variétés, différentes familles, différentes espèces, et plus les prédateurs vont venir parce qu'ils aiment ces variétés-là, surtout quand on utilise des variétés indigènes. Et puis, les insectes... dans les pestes, ils vont préférer aller à un endroit où il y a de la monoculture plutôt que où il faut qu'ils volent certaines distances pour aller dans leur plante favorite.
Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu parfois de donner un coup de main à la nature un peu, même si c'est chimique?
Non, parce qu'on va pas donner un coup de main, parce qu'en mettant des produits chimiques, on va aussi empêcher les prédateurs soit de survivre, parce que ça peut les tuer, où on va aussi, en gros, si on tue, imaginons les pucerons, si on met un insecticide pour tuer les pucerons, mais en fait, la coccinelle qui, elle, arrivait pour manger le puceron, elle a plus de nourriture. Donc, faut pas non plus enlever la nourriture aux prédateurs. Donc, il faut trouver une sorte d'équilibre. Donc, quand l'équilibre au début, il est perturbé, là, c'est sûr qu'on peut aider un petit peu, Les scarabées japonais, c'est encore un bon exemple. Hein. Au printemps, je fais ma petite tournée, je les ramasse, ceux qui arrivent tout juste, et je les mets dans de l'eau savonneuse. Ça aide à pas en avoir des quantités astronomiques parce qu'ils s'attirent avec leurs phéromones. Donc, on peut les aider un peu, mais il faut éviter les produits chimiques qui vont être néfastes pour les prédateurs.
Un autre élément dont il faut tenir compte, c'est que les plantes, en grandissant, prennent de l'expansion. On peut avoir un petit carré de fleurs, on met 2 ou 3 pouces et pendant une année, on voit la terre. Et à la deuxième année, on voit plus la terre. Puis à la troisième année, on est envahi et il y a même des plantes qui en étouffent d'autres. Faut calculer ça aussi.
Oui, il faut le calculer. Quand on plante, il faut calculer la distance quand les plantes sont adultes, sont matures. Si on veut quelque chose de plus resserré, hein, un peu comme les plates-bandes à l'anglaise, ben c'est sûr qu'on peut les serrer un petit peu plus que leur diamètre. Ils peuvent se toucher un peu. Mais oui, il faut prévoir qu'elles vont grossir. Et il y a certaines plantes qui, en plus de grossir, vont migrer, hein, vont partir un peu à la conquête du jardin. Donc elles, c'est sûr que si on décide de les prendre, imaginons la menthe, on peut choisir de les planter dans des barrières pour éviter qu'elles se propagent, ou bien il faut, si on est correct avec ça, le printemps, on arrache les tiges qui ont sorti de l'endroit où on veut qu'elles soient.
Un conseil en terminant, Christelle Guibert, que faire à la fin de l'automne pour passer à travers la saison d'hiver et pas se réveiller avec trop d'ouvrages au printemps?
Il ne faut rien faire à l'automne parce que c'est là où les insectes bénéfiques ont besoin d'endroits pour se cacher et passer l'hiver. Donc, si on en veut au printemps, il ne faut pas y toucher à l'automne. Et puis, au printemps, qu'est-ce qu'on fait? On attend vraiment que la nature se réveille. Donc là, en ce moment, on voit certaines abeilles qui commencent à sortir, certains bourdons. Il faut vraiment attendre qu'ils sortent tous. Et puis, au moment où, généralement, c'est quand les vivaces elles commencent à ressortir puis elles commencent à faire leurs tiges vertes. Là, on peut se dire, OK, on va faire un petit nettoyage. Donc, on peut retirer les tiges mortes, des choses comme ça. On peut laisser au sol, si on veut, ça fait du paillis naturel. Soit on retire, puis on met dans notre propre compost, si on veut que ça soit plus propre, soit on laisse au sol. Mais c'est vraiment au printemps, quand les tiges ont déjà poussé, qu'on va commencer à faire le nettoyage. Il ne faut pas y toucher avant si on ne veut pas perturber l'écosystème.
L'ouvrage signé Christelle Guibert, c'est dans la cour au jardin, c'est publié chez Éco-Société. En sous-titre, on a transformé son jardin en aménagement écologique et comestible. Alors, pour les gens que la sève du printemps anime aujourd'hui et qui veulent commencer, ils voient venir l'été, c'est peut-être un bon outil pour accompagner les projets de jardinage. Merci beaucoup, Christelle Guibert.
Merci à vous. Bonne journée.
Bonne journée.
Pour les enfants qui naissent et qui vivent entre l'acier et le bitume, entre le béton et l'asphalte, et qui ne sauront peut-être jamais que la terre était un jardin. Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Il brillait au soleil comme un fruit défendu. Non, ce n'était pas le paradis ni l'enfer, ni rien de déjà vu ou déjà entendu. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin, une maison. Avec un lit de mousse pour y faire l'amour, et un petit ruisseau roulant sans une vague venait le rafraîchir et poursuivait son cours. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin grand comme une vallée. On pouvait s'y nourrir à toutes les saisons. Sur la terre brûlante ou sur l'herbe gelée.
des fleurs qui n'avaient pas de nom.
C'est le moment de vous livrer mon commentaire sur un élément de l'actualité d'ici ou d'ailleurs. C'est une opinion que j'assume totalement et qui n'engage que moi. Il y a eu Rimouski, Alma, La Malbaie et plus récemment Saint-Jean-sur-Richelieu, où des convois de tracteurs ont défilé dans les rues. La colère des agriculteurs gronde. Difficulté à joindre les deux bouts, l'ampleur de la paperasse exigée par le gouvernement, la concurrence avec les produits venus de l'étranger, qui ne sont pas soumis, eux, aux mêmes normes sociales et environnementales que les producteurs d'ici. Ce sont là quelques-unes des raisons du ras-le-bol, il y en a bien d'autres. Après avoir pendant longtemps refusé d'y voir une crise, voilà que François Legault l'a admise finalement, après les difficiles saisons de l'année 2023. L'industrie du porc traverse une période difficile, les producteurs maraîchers ont vu leurs champs inondés, d'autres ont connu des sécheresses sévères. Dans tous les cas, les pertes ont été graves. Ça fait monter les prix, bien sûr. Ceci, c'est sans compter la hausse des taux d'intérêt, celle du prix des engrais et des carburants. Ils ont besoin d'un environnement d'affaires qui permette de se développer et de s'adapter au changement climatique sans avoir besoin de passer 40 heures par semaine à remplir de la paperasse, en plus du travail d'élevage et de culture. Vous entendez probablement plus souvent les professionnels, tels les médecins, les omnipraticiens, les dentistes, se plaindre de la paperasse, mais voilà que les agriculteurs ont aussi à s'en plaindre de la paperasse. On les avait pas beaucoup entendus, faudrait peut-être les écouter. Les normes imposées aux producteurs d'ici sont beaucoup plus strictes que celles imposées aux pays exportateurs. Est-ce bien normal d'imposer des normes sur les produits d'ici que l'on n'exige même pas des pays exportateurs dont on connaît peu le mode de production, les normes environnementales, les conditions d'élevage ou l'utilisation de pesticides? Tant au gouvernement que dans la population, on semble oublier à quel point ils sont importants pour l'autosuffisance alimentaire dont nous avons tous besoin. Les agriculteurs connaissent un appauvrissement au moment où les chaînes d'alimentation font des profits faramineux. On y augmente hypocritement les prix au détail. On est obligé de travailler à l'extérieur, d'avoir deux emplois pour faire nos paiements à la ferme, explique un propriétaire. La relève est de moins en moins assurée. Les jeunes entrepreneurs rêvent d'une autre vie, d'un autre régime de vie. Ils sont démotivés par la lourdeur de cette tâche et par le métier de moins en moins attrayant sur le plan économique, social et surtout personnel. Les agriculteurs souhaitent un plan d'action du gouvernement avec une vision à long terme. Actuellement, l'aide obtenue ne fait toujours que colmater les dégâts immédiats et les dégâts à la pièce. Rien pour relancer un système dans des conditions acceptables à long terme. Les agriculteurs demandent une intervention significative du gouvernement, généreux en ce qui concerne la filière énergétique, mais plutôt radin en matière d'agriculture. Et pourtant, la population aussi, vous et moi, devons prendre nos responsabilités pour encourager les produits locaux et saisonniers, même s'ils sont plus coûteux. À long terme, les agriculteurs demandent à toute la société de faire un choix, d'adapter son mode de vie pour encourager l'achat local ou de laisser mourir notre industrie locale. Le 22 avril prochain, ce sera le jour de la terre. Les agriculteurs veulent souligner l'événement par un immense rassemblement du côté de Sherbrooke. Ils auront besoin de notre compréhension et de notre appui. Il n'y a pas que la langue qui soit en péril au Québec. La terre de nos aïeux l'est également. Quelque intervention du gouvernement n'arrivera probablement jamais à régler ou à sauver l'un et l'autre si chacun de nous, individuellement, on ne prend pas la décision de nous engager à le faire. C'était mon opinion. Myriam Blair, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de projet pour Québec, ville de littérature UNESCO. Vous êtes de l'équipe de l'événement Une ville, un livre, qui veut mettre en valeur la littérature jeunesse d'ici, en tout cas cette année. C'était ça l'année dernière, c'est de nouveau cette année. Une ville, un livre, c'est une proposition de l'UNESCO ou une initiative de la Ville de Québec?
Écoutez, c'est une initiative, en fait, de Seattle, qui est depuis devenue ville de littérature UNESCO également. Donc, c'est une de nos villes sœurs dans le réseau. Ils ont commencé ça en 98. Et depuis, ça c'est un mouvement qui s'est propagé dans le monde. Là, il y a beaucoup de villes qui le font. La particularité à Québec, c'est qu'on fait, on met l'emphase sur des livres de la ville de Québec, donc écrits par des auteurs de la ville de Québec qui sont toujours vivants et qui sont écrits récemment. Donc le but là, c'est de soutenir vraiment la vitalité littéraire à Québec en ce moment. Donc on essaie d'encourager le monde à lire la littérature, non juste de la province de Québec, mais même de notre ville.
Est-ce que c'était le cas aussi pour Seattle, c'est-à-dire que on encourageait les auteurs de Seattle ou si on encourageait les auteurs américains?
Non, pas du tout. Dans le fond, dans les autres villes, à ce que je sache, c'est vraiment tout. Ils choisissent un livre, mais n'importe quel livre, ça peut venir de n'importe où, n'importe quel auteur.
Il s'agit
de lire tous ensemble le même livre.
Qu'est-ce que ça signifie, ville de l'UNESCO, littérature de l'UNESCO?
Ben, c'est une bonne question. donc, l'UNESCO, il y a plus de gens qui ont entendu parler de patrimoine UNESCO.
Oui.
Ben, l'UNESCO a aussi construit un réseau de villes créatives. Donc, on est 350 villes avec 7 disciplines créatives différentes, dont la littérature, ça c'est nous. Donc, c'est pour vraiment reconnaître le fait qu'à Québec, on a une vie littérature foisonnante, vivante et que c'est quelque chose qu'on contribue au monde.
Dans l'ensemble des villes concernées, c'est pas toujours la littérature. Il y a d'autres projets. Ailleurs, ça peut être d'autres choses.
Oui, il y a des villes d'art médiatique. Il y a des villes de gastronomie. Il y a des villes de
Il peut y avoir de l'artisanat ou
artisanat, c'est exactement ce que je cherchais. L'artisanat, oui.
Quels sont les critères pour être ville de littérature de l'UNESCO?
C'est une bonne question. Fait à toutes les deux ans, dans le fond, on reçoit des candidatures, pas nous, la Ville de Québec, mais le réseau en général et l'UNESCO, de d'autres villes qui disent, nous, je pense qu'on a ce qu'il faut pour être ville de littérature et participer au réseau. Donc, ce que ça veut dire, c'est avoir une ville qui abrite une scène littéraire importante et vivante en ce moment et qui soutient la littérature dans la ville. Donc, c'est pas juste que ça existe, mais bien que la ville soutienne cette création-là à travers différentes initiatives. Donc, nous, notre mission à Québec Ville de littérature UNESCO, c'est justement de soutenir la vie littéraire à Québec à travers différents moyens.
Il a fallu, à un moment donné, qu'on en fasse la demande.
Oui, exactement.
Pour faire partie de ça.
On a construit un dossier, on a expliqué pourquoi, combien d'auteurs il y a à Québec, qu'est-ce qu'on a, entre autres, la Maison de la littérature dans le Vieux-Québec qui abrite des auteurs, qui fait des tables rondes, qui fait des résidences aussi, qui est vraiment un hub créatif, là, si on veut, pour la littérature à Québec. Et c'est juste un exemple. Il y a d'autres choses comme ça à Québec. Mais ça fait que Québec participe au réseau et est un membre du réseau de villes littéraires dans le monde.
Corrigez-moi si je fais erreur, mais j'ai comme l'impression que ça coïncide avec l'ouverture de la Maison de la littérature, à peu près.
Oui, donc on est membre depuis 2017. Là, je me rappelle pas de la date d'ouverture de la Maison de la littérature.
Moi, peut-être une année ou deux avant ça pour la Maison de la littérature. Moi non plus, je l'ai plus en mémoire. C'était la démonstration de l'intérêt de la ville pour... la littérature, bien sûr, ça aidait la demande.
En effet, là, c'est vraiment même essentiel à la demande que la ville, comme municipalité, soit impliquée là, dans la littérature.
Québec a cette préoccupation d'être une ville de littérature UNESCO et de favoriser les auteurs de la ville.
Ouais.
Faut être citoyen de la ville de Québec, payer ses taxes à la ville de Québec, si on est propriétaire, pour pour être sélectionné d'une certaine façon. Comment se fait cette sélection-là? Ce sont des maisons d'édition qui proposent leurs auteurs? Ce sont des auteurs qui se proposent? Comment se fait la sélection?
Pour Une ville, un livre, vous parlez?
Oui.
Oui. Donc, c'est le territoire de la ville de Québec et de Wendake. qui est inclus dans la désignation. Et il y a une présélection qui est faite par des membres de notre organisation, donc de Québec Ville de littérature UNESCO et aussi de l'Institut canadien de Québec qui ont participé à la présélection. Et ensuite, c'est un comité de jeunes lecteurs qui s'appelle les bouquineurs, qui sont au Machin Club, qui ont été le jury final. Donc, ils ont lu les trois livres qui ont été proposés. Les trois livres finalistes sont...
On va y venir aux trois livres.
Moi,
j'aime mieux qu'on
parle du processus avant.
Qu'on parle un peu du processus.
Donc, des adultes, dans le fond, qui travaillent pour l'ICQ, l'Institut canadien de Québec, ont proposé trois livres. Ils ont lu une sélection de livres jeunesse qui avait été publiée récemment à Québec par des auteurs de la ville de Québec. Et ensuite, ils ont proposé trois livres aux jeunes. Et c'est les jeunes qui ont lu les livres et qui vont décider du livre gagnant.
Et ces jeunes-là, vous dites qu'ils font partie de Machin Club, là.
Oui.
Qu'est-ce que c'est, ce Machin Club-là? C'est des jeunes qui s'intéressent à la littérature? C'est des jeunes qui font partie d'un club de lecture? Je veux pas de nom, là, mais...
Oui.
qui sont-ils? C'est une école?
Le Machin Club, c'est pas une école. C'est vraiment un club de jeunes qui font les médias par les jeunes, pour les jeunes. Donc, entre autres, il y a un club de lecture et qui font un podcast aussi, qui ont une émission radio à CKRL, les bouquineurs. Mais il y a aussi une équipe qui font de la télé. Puis une équipe qui font du son. Fait qu'il y a vraiment. C'est un club des médias. Là, le groupe que moi je connais, c'est les bouquineurs. Fait que je sais qu'ils lisent des livres, ils interviewent des auteurs, ils produisent une émission radio à propos des livres pour les jeunes. Donc, eux, ils ont de 11 à 13 ans et ils produisent cette émission-là pour les jeunes de leur âge.
Ils seront combien dans ce jury pour lire les trois?
Ils sont cinq jeunes qui vont lire les trois. Ouais.
Ils ont des critères.
Oui, ils ont des critères.
Ils ont des critères d'évaluation pour établir quel livre sera le livre de la ville.
Écoute, on le sait pas encore parce qu'ils vont faire leur débat.
Okay.
Ils vont se discuter ensemble et ce qu'ils cherchent, c'est une originalité, ce qui les accroche, eux. Donc, ils vont chercher des livres qui les accrochent, des livres originaux. À part de ça, il faudrait leur demander, eux, ce qu'ils recherchent.
Ah, c'est eux autres qui vont s'établir, là. Oui, c'est eux autres qui vont s'établir et non pas un comité, là, de sages qui dit, faut que vous voyez sur la qualité de la langue, faut que vous voyez sur l'intérêt, faut que vous voyez sur ce...
Écoutez, c'est eux, notre comité de sages. C'est les bouquineurs.
C'est ces machins clubs qui sont le comité de sages.
Ouais.
Trois auteurs retenus pour cette année. Présentez-moi un peu Denis Côté.
Denis Côté, c'est un auteur qui a beaucoup d'expérience, qui écrit beaucoup de livres. Moi-même, j'ai lu Denis Côté quand j'étais jeune. Il y a plusieurs générations, dans le fond. Je pense qu'il a publié plus de 40 œuvres là, jeunesse dans sa carrière. Donc, ça a touché plusieurs générations de lecteurs maintenant. Et il a sorti son dernier livre, c'est Le cinéma de l'horreur, qui plonge dans l'univers horreur, cinéma... comme le dit le titre, évidemment, et qui nous amène sur une aventure mystérieuse.
Oui, on pourra y revenir sur l'aventure mystérieuse. Sandra Dussault.
Sandra Dussault, un petit peu plus jeune, mais qui a quand même une bonne carrière déjà aussi. Elle, son livre, c'est Le manoir Hillcrest. C'est encore de l'horreur. Donc, c'est deux livres d'une collection de la courte échelle qui est une collection noire un peu... comme dans le style du film noir, mais en BD ou en livre illustré. Super belle collection, là. Je vous invite à aller voir.
Avant d'aborder le troisième, j'aimerais ça qu'on s'attarde un tout petit peu sur ce qui a attiré mon attention. C'est auteur jeunesse et c'est du fantastique ou du... On n'est pas dans le facile, dans le simple, dans la vie est belle, la rivière coule.
Ben non, en effet, c'est rare qu'il y a de l'horreur.
L'horreur, carrément.
C'est le style, là, c'est de l'horreur carrément. Et je pense que ce qui a attiré le jury, c'est, tu sais, il y a vraiment la présélection en tout cas, là, tu sais, c'est vraiment, il y a une originalité là-dedans, une nouveauté peut-être dans le genre de la littérature. Je sais que ça existe.
Ouais.
Là, il y a les
mais on sait que les jeunes sont attirés par l'horreur aussi. Ils aiment ça se faire peur.
Oui. Écoute-moi, ça m'a jamais été mon truc. Ben, les livres pour enfants de 12 ans, ça me va. Hein? De l'horreur pour jeunesse, je suis capable de copier. Mais oui, en effet, il y a toute une bande de jeunes qui adorent ça. avoir les frissons et avoir peur.
Oui. C'est la deuxième année que une ville, un livre, s'intéresse à la littérature jeunesse précisément. Les années précédentes, on était davantage dans la littérature adulte.
Oui, en effet. Fait qu'on fonctionne par cycle. Donc, c'est notre sixième édition. On a fait deux éditions romans adultes. On a fait deux éditions BD. Et maintenant, on est rendu à un cycle jeunesse. Donc, on prévoit même, je pense, faire une troisième année jeunesse. Ça peut encore changer, mais pour l'instant, c'est ce qu'on prévoit, faire une troisième année jeunesse dans notre cycle jeunesse.
Dans l'idée d'atteindre un plus large public, vous êtes toujours dans la fiction, dans le récit, je veux dire dans le roman globalement. On n'aurait pas tendance à aller du côté de la poésie ou je sais pas, de l'essai ou d'un autre genre.
Le futur va nous le dire. Là, on va déjà commencer à penser à nos prochaines éditions puis quelle direction on va prendre. Mais je dirais que le gagnant de il y a quelques années aux éditions Pow Pow de Francis Desarnais, La Petite Russie, c'était...
C'est une bande dessinée.
Oui,
qui est extrêmement brillante.
Qui est extrêmement brillante et qui est basée sur une histoire vraie. Là. C'est pas, oui. C'est pas complètement du roman, de la fantaisie. Fait que c'est sûr qu'on n'est pas... On n'exclut pas la réalité de notre projet du tout. Mais poésie, essai, c'est dans des cycles à venir.
Mais à l'époque de Francis Desarnais, j'imagine que c'était un jury adulte par rapport au jury enfant aujourd'hui, là.
Oui, en effet, dans le passé, ça a été des jurys adultes qui ont fait la sélection.
Selon le genre qui est en cause, le jury va avec un peu.
Oui.
Parce que là, on est dans la littérature jeunesse. On aborde le troisième qui était retenu, qui s'appelle Shane Michaels.
Oui, fait que Shane Michaels, c'est un auteur du Nouveau-Brunswick, merci, j'ai eu un blanc. c'est un auteur autochtone wallistique. Je pense que je l'ai bien dit, mais je m'excuse à tout le monde si je l'ai mal prononcé. Donc, c'est un merveilleux auteur. Jusqu'à maintenant, il écrit de la poésie. Donc, c'est son premier livre pour enfants et c'est plutôt un documentaire. Donc, ici, on répond un petit peu à votre question d'avant, là, si on faisait juste de la fiction. Ben, encore une fois, non. Mais c'est un documentaire pour enfants qui présente les 11 nations autochtones de la province du Québec à travers des personnages. Donc, c'est pas des personnages fictifs, là, des vrais personnages qui... Donc, Shane a eu un procédé extraordinaire où il a contacté chaque nation. Il leur a demandé, eux, de proposer des personnes importantes, soit de leur histoire ou soit vivantes présentement. Fait qu'on a un beau mélange de personnages historiques et de personnages vivants. Et il les présente un à un à travers des petites biographies très accessibles. T'sais, c'est pour des jeunes. Et toujours, il a fait ça dans le respect et dans la coopération avec chaque nation.
En effet, c'est mon étonnement. Pourquoi je l'ai retiré un peu du lot? C'est mon étonnement à comparer aux deux autres. Ce document-là qui vient mettre en évidence des personnalités, probablement pour des traits de caractère, des rôles qu'ils ont pu jouer. Moi non plus, je suis pas capable de vous prononcer très bien son origine autochtone, mais on sait qu'il est de la nation Malécite du Madawaska.
Oui, au moins, et il est acadien aussi.
Il est acadien. Ouais. Mais là, ça m'amène à ma question. Qu'est-ce qu'il fait à Québec?
En
quoi est-il un auteur de la ville de Québec?
Ben, ce qu'il m'a raconté, moi, c'était qu'il est venu à Québec... pour expérimenter une autre communauté autochtone, en fait. Parce que chez lui, c'est pas que sa communauté autochtone n'existait pas du tout, mais que lui, en tant que jeune adulte, était moins en contact avec eux. Et c'est en venant à Québec qu'il a découvert une vie autochtone, une communauté autochtone plus vivante et avec laquelle il est vraiment connecté. Fait que maintenant, depuis... je lui ai pas demandé depuis quand il habite à Québec, mais depuis quelques années, là, ça fait une bonne couple d'années qu'il vit à Québec et qu'il travaille à Québec et qu'il s'identifie à la ville. Là. Donc, on est chanceux de l'avoir parmi nous.
Ben oui. Si les deux autres étaient publiés par la Courte Échelle, lui, il est publié par la maison d'édition de Wendake.
Oui, c'est la maison d'édition Anenorak qui est à Wendake et qui publie de la littérature autochtone.
Et il habite Québec.
Et la Ville de Québec.
Depuis un certain nombre.
Ouais.
Mais son projet, ce qu'il raconte et qui a été publié sur un anorak, comme vous le mentionnez, c'est quand même une personnalité ou quelqu'un d'important dans sa vie qui lui l'a aiguillé un peu sur ce sujet-là de rencontrer des... Vous avez mentionné qu'il était poète et c'est comme ça qu'il a été connu et on lui a proposé de faire cette recherche-là auprès des communautés autochtones et donc d'en retirer des personnalités, des modèles à donner en exemple, donc d'écrire de courtes biographies peut-être sur ces gens-là. Est-ce que vous avez vu l'ouvrage? Est-ce que vous savez à peu près quelle allure ça prend?
Oui, absolument.
C'est combien de personnalités qu'il aborde?
Donc c'est 11 pour chaque nation, 11 personnalités pour 11 nations autochtones au Québec.
Une dans chaque nation.
Exactement. Et oui, c'est comme vous avez dit, c'est des courtes biographies. Et c'est souvent des personnalités qui ont joué des rôles importants dans la communauté, soit par ce qu'elles représentent, soit par le travail qu'ils ont fait, soit par des contributions qu'ils ont faites à la communauté.
Avez-vous rencontré des noms connus?
Oui,
est-ce qu'il y a un Max Gros-Louis, par exemple?
Il n'y a pas Max Gros-Louis. Moi, j'ai honteusement peu de connaissances là, sur les nations autochtones, mais il y avait quand même César Nawashish que j'avais reconnu parce que j'avais vu le film Canot d'écorce, dans lequel César Nawashish fabrique un canot d'écorce. C'est un super de beau film là, disponible sur YouTube, là, si vous allez vouloir aller voir, et dont il fait mention. Donc, César Nawashish est un des personnages présentés dans le livre.
Revenons brièvement sur les titres. Cinéma de l'horreur, qui est de l'œuvre de Denis Côté. C'est que le héros se retrouve au cinéma, mais ce qui se passe au cinéma devient sa réalité. Qu'est-ce qui...
Ben là, je veux pas trop dévoiler le punch, là. On veut pas trop, mais si on veut vous donner le goût, ouais, c'est ça, on plonge. La réalité, le cinéma se mélange, puis on plonge dans l'univers imaginaire et horreur.
Les enfants vont avoir peur de ce qu'il y a dans leur garde-robe ou de ce qui se cache sous leur lit.
Mais non, je pense que pour moi en tout cas les sujets un peu épeurants sont plus abordables à travers la littérature par exemple qu'à travers le cinéma. Mais
on peut toujours fermer le livre et dire
c'est ça, on peut prendre une pause.
On le laisse là,
respiration.
Dans le manoir Hillcrest,
ouais.
C'est quoi, c'est un genre de j'oublie le nom là, mais il y a un film célèbre avec Jack Nicholson là, qui est sur le haut de la montagne dans un manoir gardien l'hiver là, puis il se passe des horreurs dans ce manoir là, mais enfin j'invente, mais c'est quelqu'un qui vit, c'est une femme et ses enfants qui vivent dans un manoir ancestral, dans un vieux manoir, puis il doit avoir élevé des fantômes, je suppose.
Écoutez, encore une fois, on veut pas trop dévoiler le punch là, mais faut donner le goût aussi. Donc c'est un mystère qui se passe dans un vieux manoir mystérieux et qui des choses épeurantes et mystérieuses se mettent à se passer.
On dit que une ville, un livre. Ça doit s'adresser autant aux adultes qu'aux enfants, mais j'imagine que les œuvres d'adultes n'intéressaient peut-être pas beaucoup les enfants. Là, c'est des œuvres pour enfants, mais qui devraient normalement intéresser les adultes, qu'il n'y ait pas juste des enfants qui lisent ça au moment où on va déterminer. Les trois livres sont présentement entre les mains des lecteurs, des cinq lecteurs qui vont débattre et qui vont en choisir un. Ça va se passer, c'est dans le mois de mai.
Oui, donc ça va être le livre sélectionné va être révélé le 30 avril et le projet Une ville, un livre en grande partie, le projet, c'est de distribuer des livres aux jeunes du Québec, donc de la ville de Québec. Mmh. Donc, 1000 livres vont être distribués dans les écoles, dans les classes de 6e année de la ville de Québec, des petits lots par classe, donc chaque classe va avoir accès à quelques livres à se partager, et on va aussi proposer des activités, il va y avoir des visites d'auteurs dans les classes, donc c'est vraiment pour mettre les jeunes en contact avec la littérature d'ici, leur faire comprendre que, tu sais, les gens de la ville de Québec, ça peut être des auteurs, et comme vous dites, oui, on encourage les adultes à lire les livres aussi. Donc, on vous
peut-être
dit...
Peut-être pour en parler avec les enfants?
Ben ils vont pouvoir en parler avec leurs enfants ou leurs nièces ou leurs petits-enfants ou leurs amis, les enfants de leurs amis. Donc, oui, on encourage les adultes à lire ces livres-là. On dit, tu sais, la littérature jeunesse, c'est pour tout le monde. Il y a de la créativité, de la qualité dans cette littérature-là là, qui est accessible aux adultes. Là. On dit souvent, ah, c'est accessible aux enfants. Ben là, c'est accessible aux adultes. Là. On vous encourage à regarder.
Les 1000 livres qui vont être distribués,
ouais.
C'est des trois auteurs retenus ou du gagnant?
Non, ça va être le gagnant. Ouais, ça serait le fun de fournir autant de livres qu'on veut à autant d'enfants qu'on peut, mais notre budget...
ouais, le budget limité. Mais il reste quand même que on a nommé les auteurs et les titres de livres actuellement qui sont soumis au jury, ce qui n'empêche pas les gens de se les procurer, ces livres-là, et de les lire aussi. Présentement.
Ça les empêche pas et même on les encourage. Tous ces livres-là sont disponibles en librairie et en bibliothèque qui on l'espère vont rouvrir bientôt là. Donc tous ces livres-là sont disponibles. Là. Il y a des éditions audio de certains d'entre eux. Il y a des éditions en ligne là aussi de certains d'entre eux, des livres numériques. Donc peu importe le format que vous préférez, on vous invite à aller découvrir ces trois livres-là.
Oui. L'idée que beaucoup de monde lisent le même livre en même temps.
Ouais.
C'est un peu ce qui est à la base de ce projet-là. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que vous êtes dans cette organisation-là où vous êtes chargé de projet, mais est-ce que vous avez vu, est-ce que vous avez senti cette énergie-là autour du livre de l'année dernière, autour du livre de l'année précédente?
Moi, je l'ai senti un peu... premièrement, c'est ma deuxième édition pour moi là de Une ville, un livre, même si c'est la sixième édition de la Ville de Québec. Là. J'ai senti un peu l'année passée, je suis arrivée comme au milieu du projet. Puis cette année, je le sens vraiment encore plus. Là. Il y a un bel engouement autour des livres, il y a un bel enthousiasme de tous nos partenaires. C'est vraiment plaisant, ça fait chaud au cœur. Et oui, c'est ça, le but, c'est de créer un club de lecture à la grandeur de la ville pour que tout le monde, tu sais, que ça donne quelque chose en commun, ça donne quelque chose même au sein d'une famille de quoi parler et au sein d'une communauté de quoi parler, de quoi partager.
Et quand vous l'aurez lu, ben laissez-le sur un banc, quelqu'un d'autre peut-être le prendra et pourra le lire.
Denis Côté,
Denis Côté, c'est le cinéma de l'horreur. Sandra Dussault, c'est le manoir Hillcrest. Et Shane Michael, c'est nos racines, Our Roots.
Oui.
Merci beaucoup, Myriam Blair.
Ah ben merci beaucoup de m'avoir reçue.
Monsieur le livre, raconte-moi toutes ces histoires comme autrefois. C'est dans tes pages que je relis les plus belles histoires. Je t'en remercie. Monsieur le livre, raconte-moi toutes ces histoires comme autrefois. Princesse endormie, un petit pantin de bois, capable de folie, les trois petits cochons, ou la famille ourson, tous ces contes, ces histoires, à jamais en mémoire. Monsieur le livre, raconte-moi toutes ces histoires.
Pour tout commentaire, question, suggestion, appréciation, vous pouvez le faire à Entre nous avec un trait d'union @radiogalilee.com. C'est ainsi que se termine cette émission. Merci à mes invités d'aujourd'hui, Claudette Dion, Christelle Guibert et Myriam Blair. Merci à Yannick Caron pour la prise de son et la mise en onde. Recherche et entrevue Yves Houd, qui vous remercie, vous tous et toutes qui avez été à l'écoute. Et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une autre rencontre à vivre entre nous.